Vous écoutez, on lit pour vous.
Santé Inc. Pour un système de santé fonctionnel, il faut sortir le privé. Un texte de Sam Harper paru le 18 mars 2024 dans Pivot. Un nouveau livre rappelle les faits aux personnes qui espèrent trouver une solution au problème du système de santé dans les promesses du privé. Le secteur privé dans le domaine de la santé a eu amplement le temps de faire ses preuves. Résultat, il coûte plus cher, il est moins efficace, il ne parvient pas à augmenter l'accessibilité et il n'améliore pas la qualité des soins. Ce sont les constats accablants que fait Anne Plourde dans « Santé Inc. Mythes et faillites du privé en santé », publié chez Éco-Société. Anne Plourde étudie le système de santé québécois depuis une quinzaine d'années. La chercheuse postdoctorale à l'Université York et à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, IRIS, constate une plus grande ouverture au privé dans la population. Son nouveau livre s'adresse à ces personnes qui ne ferment pas nécessairement la porte au privé. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on avait besoin de revenir aux faits et de s'adresser aux personnes qui ont une certaine ouverture au privé, qui cherchent des solutions aux problèmes réels du système public de santé, explique-t-elle. Le système de santé public est bel et bien en crise, insiste-t-elle. On comprend les gens d'être en recherche de solutions, dit-elle. Mais les gouvernements successifs au Québec présentent la participation du secteur privé comme étant la solution, alors qu'ils font partie de la source du problème, met-elle en garde. Le privé dans la prestation ou le financement. Dans son livre, la chercheuse décortique la place du secteur privé dans notre système de santé publique et différencie deux grandes catégories d'implication privée, la prestation et le financement. La prestation privée, c'est quand une entreprise privée donne les soins. On pense ici aux laboratoires privés, aux cliniques médicales privées à but lucratif. Pour Anne Plourde, cette catégorie s'étend aussi au groupe de médecine familiale, GMF, dont les propriétaires peuvent être des entreprises à but lucratif. Le financement privé, c'est quand le patient ou sa compagnie d'assurance paie pour un service. Ces deux modes peuvent cohabiter. Une clinique de chirurgie privée à but lucratif peut recevoir des patients du réseau public. Il s'agit alors de prestations privées avec du financement public. Si une personne paie de sa poche pour passer une radiographie, il s'agit de prestations privées avec financement privé. Ces deux faces de la médaille du privé en santé n'ont pas disparu avec l'arrivée de la carte d'assurance maladie. La nationalisation complète du système de santé n'a jamais été réalisée. Les médecins, par exemple, ont toujours été des entrepreneurs privés, vendant leurs services au régime public. Les mythes du privé en santé. Le livre décortique et déboulonne un à un cinq mythes sur la participation du privé dans le secteur de la santé. Il est nouveau, il coûte moins cher, il est plus efficace, il réduit les listes d'attente et finalement, il améliore la qualité des soins. Le discours des gouvernements et des promoteurs du privé fait en sorte que ces idées sont entrées dans l'imaginaire collectif. On entend encore souvent que la concurrence permet d'augmenter l'efficacité et de réduire les coûts, que l'ajout de services privés va désengorger le secteur public. C'est pour ça que je trouvais important de revenir aux données probantes, explique Anne Plourde. On en a beaucoup des exemples, des cas concrets au Québec, des modèles de prestations privées ou de financement privé de services. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs pour voir la capacité du privé à répondre aux besoins. Le constat, chiffres et exemples à l'appui, est clair. C'est un échec lamentable, laisse tomber la chercheuse. Sur le plan des coûts, il y a l'exemple du projet pilote lancé en 2016 par le ministre libéral de la Santé Gaétan Barrette, afin de comparer le coût de certaines chirurgies entre les cliniques privées et les hôpitaux publics. Cette étude, d'abord gardée secrète, a révélé que ces interventions coûtent en effet plus cher lorsqu'elles sont effectuées au privé. Sur le plan de l'efficacité, Anne Plourde donne l'exemple du système de santé aux États-Unis, où la bureaucratie est encore plus lourde que dans notre système public. Elle pointe aussi du doigt les GMF, dont l'objectif était d'assurer l'accès à un médecin de famille et de désengorger les urgences. On constate qu'après 20 ans, ces cliniques privées n'ont pas réussi à remplir leur mandat. Elles doivent même parfois sous-traiter leurs obligations d'offrir des services le soir et les fins de semaine aux urgences qu'elles devaient venir aider. La solution passe par la déprivatisation. Le livre ne fait pas que dresser la liste des faillites du secteur privé à but lucratif dans le réseau de la santé. La conclusion ouvre sur un dernier mythe, celui selon lequel la présence du privé dans notre système de santé serait inévitable. Pour la chercheuse, ce mythe qui veut qu'on n'ait pas le choix, que c'est une fatalité, est celui qui est sous-jacent au discours conservateur visant à perpétuer des injustices inacceptables. Ce que j'avance comme solution, c'est la déprivatisation complète des services de santé, affirme Anne Plourde. Cette sortie du privé ne pourra pas se faire du jour au lendemain. Elle va exiger un plan, précise la chercheuse. La démarche actuelle du gouvernement pour se sevrer des agences privées de placement de personnel est la preuve que c'est parfaitement possible de déprivatiser quand il y a une volonté politique de le faire, dit-elle. Ce qu'on fait pour les agences de placement, qu'on le fasse pour l'ensemble des services privés, propose-t-elle. Pour y arriver, il faudra d'une part améliorer les services publics, y réinvestir et améliorer les conditions de travail dans le réseau de la santé. Ensuite, il serait possible de faire comme lors de la nationalisation des hôpitaux et cesser totalement de financer les entreprises privées. Enfin, la déprivatisation passe aussi par l'intégration des médecins comme employés du réseau public. On doit cesser de financer tous les établissements qui refusent de se plier à certaines conditions, d'intégrer le système public ou de se convertir en organisme à but non lucratif géré démocratiquement. C'est tout à fait possible de le faire. Je pense que ce serait le temps. Les 40 ou 50 ans qui ont suivi la mise en place du réseau public ont très bien démontré que la place importante qu'on a laissée au secteur privé nuit au développement et au bon fonctionnement du réseau public, dit Anne Plourde. C'était Santé Inc. Pour un système de santé fonctionnel, il faut sortir le privé. Un texte de Sam Harper, paru le 18 mars 2024 dans Pivot.
Les hauts et les bas de la soirée pyjama, un texte de Maude Goyer, paru le 18 février 2024 dans la presse. Pour certains, c'est un cauchemar. Pour d'autres, une expérience enrichissante. Les parents et les enfants entretiennent une relation complexe avec la soirée pyjama, suivie du dodo à l'extérieur de la maison, le fameux sleepover. Moins populaire depuis la pandémie, l'expérience témoigne désormais de l'anxiété chez les petits et les adultes. Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance, avec une ambiance de camping au moment de se coucher et un bon déjeuner fait par les parents le lendemain, raconte Julianne Mathieu, mère de deux filles de 6 et 11 ans. Pour cette résidente de l'Assomption, il n'y a donc pas d'enjeu lié aux soirées pyjama, que ce soit elle qui reçoive ou une de ses filles qui découche. L'enjeu vient plutôt des expériences, perceptions et interprétations des autres. Il est arrivé que mes filles vivent des déceptions, par exemple parce qu'une amie faisait de l'anxiété, devait repartir plus vite que prévu pour un mal de ventre ou un mal de tête, ou qu'elle se décommande à la dernière minute, raconte Julianne Mathieu. Julianne n'est pas le seul parent à parler des soirées pyjama comme un défi de gestion de stress et d'angoisse. Marc-André Gaillard, père de deux garçons de 6 et 10 ans, fait le même constat. Je ne compte plus le nombre de fois où un parent est venu chercher son enfant tard en soirée ou même en pleine nuit parce que celui-ci le réclamait, dit le Montréalais de 39 ans. On doit ensuite gérer la déception, la peine, la frustration et l'incompréhension chez notre propre enfant. Surprotection. Est-ce qu'il s'agit ici d'une question d'anxiété chez l'enfant ou chez le parent? La question est légitime, croit Laurie Zéphir, psychologue. On vit dans une société où il y a beaucoup de surprotection, souligne-t-elle. On a donc la perception que notre enfant sera mal à l'aise dans un autre contexte et dans un autre environnement que ce à quoi il est habitué. Il faut apprendre à départager ce qui nous appartient à nous, comme parents, en termes d'anxiété, et ce que vit l'enfant. Est-il prêt? Est-ce que ça vient de lui? Trouver le juste équilibre entre le désir de notre enfant et le fait de le pousser un peu à sortir de sa zone de confort, en tenant compte de son autonomie, de ses craintes et de son tempérament, est un critère important, juge Mme Zéphir. Cela va aussi dépendre de nos propres expériences et du lien qu'on a avec l'autre parent, de la confiance qu'on lui porte, rappelle-t-elle. À quel âge? Bien qu'aucune étude ne porte sur l'âge idéal pour participer à une soirée pyjama, la psychologue souligne l'importance de la communication parent-enfant. Selon elle, avant 5 ans, ce sera difficile d'évaluer à distance ce que ressent notre enfant si, par exemple, il voulait partir et rentrer à la maison. Ses conseils, si cela survient? Apaiser notre enfant en lui demandant comment il se sent, le guider, l'écouter, bien comprendre ce qui se passe, lui conseiller de prendre un moment calme, coller son toutou, par exemple. Je ne pense pas que le parent doit se ruer pour aller chercher son enfant au moindre inconfort. Il est bon de se rappeler qu'il n'y a rien de dangereux dans la situation, simplement du nouveau, dit Laurie Zéphir. Pour Sarah Hamel, psycho-éducatrice, la soirée pyjama est un sujet délicat. Beaucoup de choses sont à considérer, indique-t-elle. De nos jours, les enfants vivent beaucoup de séparation, entre autres, avec leur figure d'attachement principale, dit-elle. Le sleepover est une séparation qui s'ajoute. Elle souligne l'importance du lien parent-enfant et du sentiment de proximité entre eux avant l'expérience du coucher à l'extérieur. Est-ce que vous avez fait le plein de moments ensemble? Ou alors vous vous êtes peu vus les jours précédents? Questionne-t-elle. Renforcer les liens. Martine Goujon considère les soirées pyjama comme des moments privilégiés pour ses deux filles de 11 et 13 ans et leurs copines. Je trouve que ça renforce leur amitié, explique la Montréalaise de 41 ans. En plus, elles se gèrent, elles jouent ensemble, elles s'occupent, et pendant ce temps, je peux faire mes trucs. C'est aussi le moment de faire de petites exceptions, comme dormir dans le salon et manger des bonbons ou du pop-corn. Les anecdotes d'Isabelle, prénom fictif, mère d'une adolescente, sont un peu moins drôles. Sa fille, partie dormir chez une amie, a dû faire face au somnambulisme de sa copine. Elle s'est fait réveiller par son amie qui criait en pleine nuit et qui s'est mise à lancer des affaires dans la chambre. Elle était déchaînée. Ma fille a fini par dormir dans le lit à étage du petit frère. Cela rappelle à Andréane, prénom fictif, une situation similaire. L'amie de son fils de 5 ans a fait des terreurs nocturnes alors qu'il dormait sous son toit et elle n'avait pas été mise au courant. Je ne savais pas quoi faire. Cette fois, c'est moi qui ai appelé les parents à minuit pour qu'ils viennent chercher leur enfant. Isabelle et Andréane ont témoigné sous le couvert de l'anonymat craignant des représailles ou des jugements de la part des autres parents. C'était « Les hauts et les bas de la soirée pyjama », un texte de Maud Goyer, paru le 18 février 2024 dans la presse.
Les personnes assistées sociales luttent pour le droit à l'amour. Un texte de Ruby Irène Pratka, paru le 19 mars 2024 dans Pivot. Depuis des décennies, des personnes contraintes de vivre de l'aide sociale ont vu leur chèque amputé si elles vivent avec une autre personne. Des groupes de défense de droits considèrent que cette pénalité pour vie maritale place des gens déjà précarisés dans un état de vulnérabilité inacceptable, en plus de nuire à leur vie privée. Une pétition à ce sujet a été déposée le mardi 19 mars 2024 à l'Assemblée nationale. Mélanie Raté et son amoureux sont ensemble depuis plus d'une décennie. Toutefois, le couple de Cowansville, en Estrie, vit séparément depuis 4 ans. Cette vie à distance est imposée par les exigences de l'aide sociale. Madame Raté, qui vit avec plusieurs problèmes de santé, a dû cesser de travailler et demander de l'aide sociale en 2017. À son étonnement, elle a appris qu'elle n'y avait pas droit. On s'attendait à ce que son conjoint, qui travaillait dans une épicerie et gagnait moins de 2 000 $ par mois, la soutienne financièrement. « Je ne veux pas lui donner ce pouvoir sur ma vie, mais je ne veux pas lui donner cette responsabilité non plus », dit la dame dans la quarantaine, qui est retournée, à contre-cœur, vivre chez sa mère. Un ou une adulte vivant seul et qui reçoit de l'aide sociale a droit à un montant de base de 762 $ par mois pour subvenir à ses besoins, avec une allocation additionnelle selon la nature et la durée des contraintes à l'emploi. Cependant, quand cette personne déménage chez son conjoint ou sa conjointe qui gagne au moins 20 000 $ par année, on s'attend à ce qu'il ou elle subvienne aux besoins du couple, explique Mélanie Raté. Et quand deux prestataires déménagent ensemble, ils doivent partager un seul chèque, bien moins généreux que ce qu'ils auraient reçu s'ils vivaient séparément. Si une personne qui reçoit 807 $ par mois déménage avec quelqu'un d'autre qui reçoit le même montant, ils reçoivent un seul chèque de 1 224 $, explique Virginie Larivière, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, CQSP. Le raisonnement, c'est qu'ils pourront économiser en partageant l'épicerie et le loyer, mais en réalité, c'est une pénalité. De plus, le couple doit désigner une personne pour recevoir le chèque, explique Mme Larivière. Quand un membre du couple détient les cordons de la bourse et l'autre n'a aucun revenu, selon elle, ça crée toutes sortes de situations toxiques, principalement pour les femmes. Ces restrictions touchent la vie des centaines de milliers de Québécois, Québécoises. En juillet 2023, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale a dénombré un peu moins de 334 000 personnes vivant de l'aide sociale au Québec, dont 80% vivaient seules. Virginie Larivière considère que ce nombre serait moins élevé si les personnes en couple pouvaient vivre ensemble sans voir leur chèque coupé. Pénaliser à tort. La notion de vie maritale est souvent utilisée, à tort, pour couper les allocations des personnes qui vivent en colocation ou qui se fréquentent, selon Virginie Larivière et Fiona Brivilikas, co-coordonnatrice d'Action plus Brome Missisquoi, un organisme communautaire qui soutient des personnes démunies en Estrie. Plusieurs personnes assistées sociales rencontrées par Pivot hésitent à déménager en colocation ou à tenter de faire fonctionner les choses avec un ou une partenaire potentiel par crainte d'être déclarés en vie maritale par erreur, quitte à assumer toutes leurs dépenses seules. Mélanie Raté, pour sa part, évite de se rendre trop souvent chez son amoureux, de peur qu'un voisin les dénonce comme étant en couple. Si on découvre rétroactivement que deux prestataires vivent ensemble sans le déclarer, le ministère de la Solidarité sociale peut leur imposer des dettes s'étalant sur un maximum de 15 ans, selon Catherine Tragnier, porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales, FCPASQ. Les groupes de défense des droits luttent pour l'abolition de toutes ces dettes. Une personne, un chèque. Depuis des décennies, le FCPASQ, la CQSP et d'autres groupes appellent à la fin de ces pratiques et à l'instauration d'une politique « une personne, un chèque ». Le député solidaire Andrés Fontecilla déposera une pétition en ce sens à l'Assemblée nationale, pétition qui a récolté un peu plus de 1400 signatures. Selon le député, les règles actuelles reflètent une vision désuète de la vie de couple. La loi a été écrite en 1969, quand la plupart du temps, il y avait un homme qui était le pourvoyeur et une femme qui dépendait de lui économiquement, explique-t-il. Maintenant, c'est différent. Nous ne pouvons plus construire des lois ou des politiques publiques sur cette vision de la vie collective, dit le député, qui s'inquiète aussi du droit à la vie privée des personnes prestataires. Une réforme très attendue. La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, a annoncé son intention d'entamer une réforme de l'aide sociale. Dans cette optique, Québec solidaire et le Parti libéral du Québec proposent plusieurs modifications au système en place. Ils s'attaquent notamment au fait que les prestataires qui augmentent leurs revenus avec des petits boulots ne peuvent pas gagner plus de 200 $ par mois sans voir le montant de leur chèque réduit. La députée libérale Désirée McGrath a notamment déposé un projet de loi qui permettrait aux prestataires de l'aide sociale de garder davantage de revenus gagnés d'un travail temporaire ou saisonnier. Malheureusement, dans les conditions actuelles, le prestataire ne gagne rien à aller contribuer à la société dans la mesure de ses moyens, note la députée. Québec solidaire, pour sa part, soutient les recommandations des groupes de défense des droits et revendique l'abolition de la notion de vie maritale. L'assistance sociale, c'est un piège qui garde les personnes dans la pauvreté. La solution idéale, c'est que chaque personne reçoive un revenu qui couvre ses besoins de base et permet sa participation sociale, conclut Andrés Fontecilla. C'était « Les personnes assistées sociales luttent pour le droit à l'amour », un texte de Ruby Irène Pratka paru le 19 mars 2024 dans Pivot.
Densifier les sites de HLM, une solution à la crise du logement? Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 19 février 2024 dans Le Devoir. Afin d'accélérer la construction de logements sociaux, Québec devrait profiter de la rénovation d'habitations à loyer modique, HLM, vétustes, pour densifier les sites où ces immeubles se trouvent, estiment des organismes de défense de locataires. Pour l'ensemble du Québec, une telle stratégie permettrait d'ajouter des milliers de logements au parc immobilier de HLM, selon eux. Rue Viaud à Montréal, à quelques pas de la station de métro, du même nom, un immeuble d'une quarantaine de logements HLM est barricadé. En 2018, les locataires ont dû quitter les lieux en raison de la présence de moisissures. Depuis ce temps, les fenêtres sont condamnées. La situation pourrait changer dans les prochaines années puisqu'en vertu d'une entente entre Ottawa et Québec, 3,1 milliards de dollars ont été débloqués en juin dernier pour rénover les HLM au Québec. L'immeuble vide de la rue Viaud, tout comme les autres bâtiments que comptent les habitations Boyce-Viaud, pourrait donc être rénové. La Fédération des locataires de HLM du Québec, FLH-LMQ, et le Front d'action populaire en réaménagement urbain, FRAPRU, estime toutefois que les autorités devraient profiter des travaux de rénovation pour ajouter un ou deux étages à l'immeuble barricadé ainsi qu'aux autres bâtiments de l'ensemble immobilier. Une telle stratégie permettrait d'ajouter 70 logements aux habitations Boyce-Viaud qui ont été construites au début des années 1970 et qui compte un total de 204 logements. Il faut faire d'une pierre deux coups, croit Patricia Vianney, organisatrice communautaire à la FLH-LMQ. On ne peut pas se permettre de faire des travaux et de se dire, dans 10 ans, qu'on aurait dû rajouter un étage. C'est maintenant qu'il faut le faire. Cette formule pourrait être reproduite partout au Québec, car le programme de rénovation des HLM touchera 2879 ensembles immobiliers côté Est en très mauvais état depuis 5 ans. À Montréal, 244 des ensembles immobiliers feront l'objet de travaux d'ici 2028. Ce sont donc des milliers de logements supplémentaires qui pourraient être construits, croit Mme Vianney. Au Québec, il y a des ensembles immobiliers qui sont sur des sites magnifiques. Il y a beaucoup d'espaces où on pourrait rajouter des immeubles sans nuire du tout à la qualité de vie des locataires. Toutefois, souligne Robert Pilon, coordonnateur de la FLH-LMQ, les programmes de construction et de rénovation sont distincts. Les deux ne fonctionnent pas ensemble. C'est ça qu'on trouve scandaleux. Les 8000 ensembles de HLM au Québec pourraient faire l'objet d'ajouts de logements, comme ce fut le cas à Rosemère, à Vaudreuil-Dorion et à Green Bay, ajoute M. Pilon. Un programme pour les offices. Les deux organismes estiment que le temps presse. Dans la province, près de 40 000 ménages sont en attente d'un logement auprès des 149 offices municipaux d'habitation du Québec. Ils demandent, par la même occasion, que Québec crée un programme spécifique pour les offices d'habitation afin de financer au moins 20 000 nouveaux HLM d'ici 5 ans. Les offices se sont pris dans un carcan qui les empêche de facilement développer. Dans la loi sur la Société d'habitation du Québec, SHQ, par exemple, il n'est pas prévu qu'ils puissent utiliser leurs actifs pour aller chercher des prêts à taux réduits. Ils n'ont pas le droit de le faire actuellement car la loi de la SHQ le leur interdit, explique Patricia Vianney. Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU, souligne que des 11 projets déposés par les offices municipaux d'habitation dans le cadre du programme d'habitation abordable Québec, PHAQ, l'an dernier, un seul a été retenu. Ce n'est pas un programme fait pour les logements publics. Une raison supplémentaire d'avoir un programme particulier, c'est de s'assurer que les offices ne vont pas travailler pour rien. On leur lancerait comme message qu'on financera leurs projets. C'était Densifier les sites de HLM, une solution à la crise du logement, un texte de Jeanne Corriveau paru le 19 février 2024 dans Le Devoir.